j'ai envie de dire, réforme territoriale, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça fait plus de 15 ans que le débat tourne en boucle. Quel est dans le millefeuille, qu'est-ce qu'on supprime. Je rappellerai quand même la réforme de Sarkozy que nous avons...
conseillers territoriaux.
Voilà, des conseillers territoriaux qui étaient aussi pour réduire le nombre d'élus. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on associe dépenses publiques, impôts, élus, rémunération d'indemnité d'élus. Et ça, moi je veux m'inscrire en faux là-dessus. Je crois que personne ici autour de cette table n'est opposé à effectivement et concède en effet qu'il nous faut une probablement une nouvelle réforme territoriale. Mais on ne la commence pas en supprimant une collectivité. D'abord, on s'interroge, et je crois que c'était ce qu'aurait dû faire ce gouvernement, c'est d'abord s'interroger sur c'est quoi le service public aujourd'hui en 2014. C'est quoi un service public de proximité aujourd'hui en 2014. Et même si on l'avait fait en 2012, ça aurait été encore mieux. Ensuite, quand on s'est posé la question et qu'on a défini ça, eh bien, on aurait travaillé sur les compétences pour savoir, effectivement, pour mettre en œuvre ce service public de proximité ou le service public tout court, quelles sont les compétences qu'il y a besoin pour assurer les missions de ce service public. Et après, effectivement, on aurait pu réfléchir à qui on les attribue et à quelle collectivité. Et si on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une collectivité, quelle qu'elle soit, qui était peut-être un surnom, bon. Mais il y aurait eu au préalable un travail de fond et un travail de réflexion. Or, ce travail n'a pas été fait. Et ce qui se passe là, c'est une réaction, j'ai envie de dire, épidermique aux résultats des municipales. Parce que curieusement, la réforme de territoriale, elle surgit comme ça au lendemain des municipales. Donc, faut aussi s'interroger. Et je pense que, comme l'a dit François, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que l'impôt pèse lourd sur les ménages, je crois qu'aujourd'hui, le consentement à l'impôt a atteint telle limite supportable. Et du coup, immédiatement, eh bien, par un mécanisme, on fait à son budget, c'est impôt, élu, indemnité. Et donc, si effectivement on supprime des élus, et donc si on supprime une collectivité, on fera des économies. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est que 1% hein, du budget de toutes les collectivités locales, quand on prend toutes les indemnités, c'est 1%, et vous pouvez le vérifier. Et donc, je crois vraiment que si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour traduire cette opposition à la façon dont, effectivement, est engagée cette réforme territoriale, qui est aussi une réforme désordonnée, quand même. On arrive en 2012. En 2012, on vote la fin de la...
du
conseiller territorial et la fin de la compétence de général. Puis ensuite, on a une nouvelle loi qui arrive. Alors, les histoires de binômes, on élargit les cantons et on vote. Vous avez tous été témoins du bazar que ça a pu créer sur les territoires, de la perturbation, pour finalement, 3 mois après, apprendre que finalement... le conseil général, il exerbe. Et du coup, les binômes, ils ne verront pas le jour, quoi. Donc, à quoi ça a servi, si ce n'est que du temps perdu. Pourquoi je prends tous ces exemples? Parce que ça montre bien que c'est... Moi, je dis, il y a un défaut de réflexion, un défaut d'anticipation. Et en tout cas, on ne fait pas une réforme territoriale. On ne modifie pas l'organisation décentralisée de la France, parce que c'est quand même un terme qui a été introduit dans la Constitution de 1958. On ne peut pas faire comme ça, du jour au lendemain, décider et c'est idem pour les régions, qu'il faille effectivement agrandir certains périmètres. D'abord, il faut dire pourquoi. On avait deux régions, on s'en est bien contenté jusqu'à présent. Donc, si on veut les agrandir, c'est pourquoi? C'est pour être comme l'Espagne? C'est pour être comme l'Allemagne? C'est parce qu'on veut aller vers des régions plus grandes par rapport à l'Europe? Mais on n'a qu'à le dire. Mais pas agir comme ça, sous couvert, simplement, de faire des économies. Économies, d'ailleurs, qui, à mon avis, n'auront pas lieu. Et je vais, là, vous donner quelques chiffres et revenir au niveau des Hautes-Pyrénées. Le budget du Conseil général, c'est 320 millions d'euros, à peu près. Le budget de l'action sociale, c'est 150 millions d'euros. 150 302 000 euros. C'est 50% du budget du département. Et sur ces 150 millions, les prestations, ce qu'on appelle les allocations de solidarité, les AIS, que nous versons pour le compte de l'État, l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées, et le RSA pour les personnes en situation d'insertion professionnelle. Et bien, quand on additionne tout ça, ça représente presque 80 millions d'euros. Ça veut dire que sur le budget du Conseil général, les allocations, le montant des allocations que nous versons pour le compte de la solidarité nationale, nous sommes en fait... nous servons ça en vertu de textes de loi qui sont des dépenses contraintes. Ça représente 80 millions d'euros. Alors, les économies qu'on veut faire là, c'est-à-dire quoi? On va diminuer le RSA? On va diminuer l'APA? Ou alors, est-ce que c'est à dire que les conseils généraux, on n'est pas assez performants dans la gestion de ces... dans la, l'organisation du versement de ces prestations? Moi, je veux dire, aujourd'hui, un agent de l'APA, un instructeur, eh bien, il a 500 dossiers et il gère une file active de 500 dossiers. Ben, je ne suis pas sûre qu'une autre collectivité fasse mieux. Hein. Donc, peut-être qu'on est mal organisé, peut-être qu'il y a... Je dis pas. En tout cas, je voulais vous donner ces chiffres-là pour qu'on prenne bien la mesure que demain, si effectivement le Conseil général disparaît, non seulement, de toute façon, ce que je vous ai dit, il faudra bien que quelqu'un le gère et que quelqu'un le gère et que quelqu'un l'organise. Ça, c'est sûr. Et je terminerai là-dessus. Notre élément, c'est que c'est le lien social qu'on va détruire. Parce que sur nos prestations, alors certes qui ne sont pas... Et j'accepte là d'être prise en contradiction et je vous dirai pourquoi. Sur des choses qui ne sont pas de notre champ de compétences. On finance des associations sportives, culturelles. C'est souvent des petites sommes, 1 000 euros, 2 000 euros. Mais tout ça, ça permet de maintenir de l'activité sur les territoires. Qui c'est qui va payer demain tout ça? Comment ça va continuer à vivre? Et ça aussi, c'est une question que le citoyen doit se poser. Alors, c'est vrai, c'est peut-être des sources d'économie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, je partage pas forcément le point de vue des gens qui m'entendent dessus, mais je vais le dire. Moi, je pense que la suppression de la clause de compétence générale était une bonne chose. Je le maintiens. Je pense que c'est une bonne chose. Et que si nous avions, effectivement, rien que ça, on aurait pu laisser toutes les collectivités, en supprimant la clause de compétence générale, en attribuant à chacun des compétences dans un domaine bien précis. Je rappelle que la suppression de la clause de compétence générale n'exclut pas la contractualisation, parce qu'après, ça permet de pouvoir... Voilà. Donc, voilà. Et on aurait fait cet essai-là d'abord. Sauf que là, elle a été supprimée par Sarko. On la remet. On décide de la resupprimer. En plus, on va beaucoup plus loin. On décide de supprimer nos collectivités. Je pense qu'on a raté un étage, qu'on va beaucoup trop vite. Et je crains, mais je crains très sincèrement, que cette réforme soit mal comprise. Alors, peut-être que le citoyen va entendre moins d'impôts, mais je pense qu'à terme, ça sera moins de services et beaucoup plus de bazar.